Prologue. Manoir d'Applecote, les Cotswolds, Angleterre. Dernier week-end d'août 1959. Aucune de nous n'ose toucher sa ceinture, si affreusement intime. Mais quand nous le traînons sur la pelouse, elle racle la terre. Et il est plus lourd qu'il n'y paraît, encombrant. À chaque pas, nous nous arrêtons pour reprendre haleine, nous dévisageant avec surprise dans la lumière de l'aube, nous mettant au défi de baisser les yeux sur son corps incroyablement charnel, l'abandon enfantin de ses bras écartés. Des pâquerettes se sont collées à lui, leurs pétales blancs-rosés s'ouvrant au soleil qui monte à une vitesse alarmante derrière le verger. Ses fleurs semblent extrêmement déplacées, des étoiles dans ses cheveux poisseux. Dot se penche comme pour les cueillir, s'asseoir et en tresser une guirlande dans le hamac de sa jupe Vichy. Si elle le faisait, cela ne rendrait pas les choses plus étranges. Encore quelques pas chancelants, et Dot perd ses lunettes. Elle les cherche à tâtons. Nous lui disons d'arrêter. Le temps presse. Soudain, tous les oiseaux commencent à chanter. Une explosion de bruit. Un affolement en boucle. J'essaie de contenir ma panique aveugle. Nous sommes les mêmes filles qu'au début de cet été torride. Le manoir d'Applecote se dresse toujours derrière nous, contemplant la vallée d'un air ensommeillé. Et dans le pré, au-delà du jardin, notre cercle chéri de pierres préhistoriques, inchangé, immuable. Nous devons rapprocher le corps de ces pierres, l'éloigner de la maison, et vite. La verrière de l'orangerie brille dangereusement sous les premiers rayons du soleil, plus proche encore que nous le pensions. Une violente nausée me plie en deux. Je tousse, les mains sur les genoux. Flora passe un bras autour de mes épaules. Je la sens trembler et élève les yeux pour tenter de la rassurer. En vain. Elle bat des cils, aveuglée par la lumière et la peur, comme pour s'habituer à un trait de mon visage qu'elle n'aurait jamais vu. Pam, les mâchoires serrées, commence à tirer sur la chemise, dont une manche, ne résistant pas au poids mort de son bras, se déchire dans un bruit assourdissant. Dot étouffe un sanglot. « Ça va aller, Dot. » Je m'interromps, voyant ses doigts éclaboussés de sang. Je regarde mes mains. Celles de Flora. De Pam. Mon estomac se tord. Nos robes d'été sont des tabliers de boucher. À présent, nous avons l'air de l'avoir toutes tuées, pas juste l'une d'entre nous. De vraies sœurs, liées par le sang.
Chapitre 1. Une cinquantaine d'années plus tard. La criminalité, les foules, la dureté des grandes villes qui forcent les filles à grandir trop vite, leur arrachent leur innocence. Il est temps pour la famille de quitter Londres, de s'installer dans un endroit plus doux, plus sain. Ils ont vu plusieurs maisons ces derniers mois, rurales, spacieuses, dont une à rafraîchir, mais aucune où Jessie pourrait vivre. Jusqu'à cet instant, debout dans le manoir d'Applecote, par une fin d'après-midi de janvier, elle se sent baignée de soleil. Il est en mauvais état, bien sûr. Autrement, il ne pourrait s'offrir une maison pareille. Des ifs s'écrasent contre les vitres de l'orangerie, menaçant de les briser et de semer, telles des perles, des baies toxiques sur le banc près de la fenêtre. Les dalles de pierre ondulent au centre de la pièce, comme poussées par une créature souterraine. Mais Jessie imagine déjà des oranges pendillées, les portes vitrées ouvertes sur l'euphorie de l'été, un fou rire de fille. De plus en plus séduite, elle suit des yeux la verrière jusqu'à son dôme géométrique. Une prouesse technique de l'ère victorienne, promettant des fruits méditerranéens dans le climat anglais parmi les rainettes farineuses. Une partie de cet optimisme, enclore pour contrôler une sorte de culture forcée, lui souffle à l'oreille. N'essaie-t-elle pas aussi de mettre sa famille sous cloche? Elle jette un coup d'œil à Bella, qui, vautrée sur le banc près de la fenêtre, pianote un texto sur son portable. Avec ses longues jambes et ses cheveux noirs, sa belle-fille de 16 ans est le portrait craché de sa mère défunte, la première Mrs. Tucker. Sentant le regard interrogateur de Jessie, elle lève son visage pâle, aquilin, et la foudroie entre ses paupières plissées. Jessie est contente que Will n'ait pas vu ce regard. Fourrant les mains comme un gamin dans les poches de sa veste, il fixe les ombres de la cuisine, le front ridé par une concentration touchante. Il cherche à concilier le rêve rural, un fantasme d'homme des villes, chasser, fendre des bûches, probablement faire l'amour dehors, avec l'étrange bruit d'oiseaux voletant dans les cheminées caverneuses, la sensation d'humidité enfermée et cet isolement terrifiant, fascinant. Sous son blouson préféré en mouton, très années 70 qui va avec ce cadre champêtre, le cœur de Jessie s'accélère. Elle ramène ses cheveux d'un roux automnal derrière ses oreilles, mettant de l'ordre dans ses pensées. Car elle sait qu'il y a une différence abyssale entre la visite d'un vieux manoir l'hiver, un jour où une lumière vaporeuse, onirique, filtre entre des arbres squelettiques, et le stress de déménager à des centaines de kilomètres, d'abandonner leur peau citadine. Ce serait un acte de foi aveugle et téméraire, comme son coup de foudre pour Will. Mais cette maison paraît simplement la bonne. De même que Will, dès qu'elle l'a rencontré, et d'une façon qu'elle ne peut expliquer, semble leur être destinée. Et vraiment, la taille d'Applecote est parfaite. Ils ne s'y perdraient pas. Vaste, comparée à leur maison londonienne, c'est pourtant une bicoque à côté des belles demeures de la région. Le mot « manoir » est clairement excessif. Comptant seulement 2 pièces de profondeur, sa surface tient dans sa largeur. Et le style est moins noble que rustique, avec des poutres noueuses et vermoulues, des murs bombés comme s'ils respiraient, et aucun mur d'équerre. Dehors, le lierre des Cotswolds enveloppe les murs de pierre, et la maison n'est pas visible de la route. Jessie aime ce retrait, le fait qu'Applecote ne domine pas la campagne environnante, mais s'y niche, telle une élégante vieille dame dormant dans les hautes herbes. Elle imagine Bella trouver enfin un peu de paix ici, et sa propre fille, Romy, libérée des aires de jeu urbaines, grimper aux arbres avec ses boucles blond fraises, duveteuses comme des bourgeons. Romy semble déjà très à l'aise, tapotant de ses doigts potelés le baiser visqueux d'un escargot collé de l'autre côté de la vitre. Jessie est sûre que sa fille aimera la liberté de la campagne autant qu'elle-même, petite. Tous ces coins secrets de l'enfance, ces mondes minuscules invisibles pour les adultes. Quand l'escargot poursuit son avancée baveuse, Romy pouffe, lève la tête et Jessie voit, dans son visage, ses propres traits de fée en miniature. Les yeux bleus sarcelles, aux cils cuivrés de sa famille irlandaise, la large bouche de Will. Elle lui rend son sourire, ravie par la joie de Romy. Leur relation est encore poreuse, ombilicale, l'inverse de son rapport avec Bella, qui semble fortifié par un mur aussi gros que ceux d'Applecote. Parfois, elle peut jeter un œil par-dessus la muraille si elle se hisse jusqu'à son faîte, en équilibre instable. Pas souvent. Sûrement pas aujourd'hui. Il y a 3 ans que Jessie a traversé la ville avec son ventre gonflant sous son manteau comme un cadeau caché. Une grossesse de 5 mois, l'accident le plus heureux du monde, pour s'installer chez Will. 2 ans après la mort de Mandy. Pour ne pas s'imposer dans sa vie familiale, elle avait tenu à son indépendance le plus longtemps possible, résistant à l'homme dont elle était tombée follement amoureuse. « Je ne veux pas passer 1 minute de plus séparée de toi, Jessie. Nous avons besoin de toi. » Jusqu'à ce que cela devienne intenable. À l'époque, il ne voulait pas déstabiliser Bella en déménageant, pas avec un bébé en route. Et Jessie croyait naïvement qu'un grand cœur, une volonté d'aimer Bella comme sa fille, finirait par apprivoiser ce faon au regard hanté qui s'accrochait à la main de son père comme s'il était le dernier homme sur la terre. Elle ne savait pas qu'essayer d'aimer Bella, sans parler d'élever une adolescente rebelle, reviendrait à caresser un animal brûlant de planter ses dents dans son cou. Que Bella ne lui pardonnerait peut-être jamais d'envahir la bulle qu'elle formait avec Will et d'apporter la joie, le bruit et la perturbation qu'était Romy, une rivale dans le cœur de son père, et la preuve gênante de sa nouvelle vie sexuelle. Et qui pouvait blâmer la pauvre Bella ?